carrefour de l'info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, les inquiétudes des secteurs à profit social dans un contexte particulièrement préoccupant pour l'avenir du non-marchand face à la réforme des aides à l'emploi et aussi aux économies budgétaires annoncées par les pouvoirs publics. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Possemier, secrétaire général de l'IPSO, l'Union des entreprises à profit social. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, une première question, si vous le voulez bien, Frédéric Possemier. Pourquoi avoir décidé de mobiliser maintenant, d'une manière aussi claire, les fédérations d'employeurs du secteur profit social ?
Vous avez raison de poser cette première question parce que c'est particulièrement inédit dans l'histoire d'une IPSO. C'est la première fois en 25 ans d'existence que nous menons un tel type d'action symbolique, parce que nos modes d'action et d'expression d'ordinaire sont différents, sont plus feutrés, sont plutôt dans la concertation sociale et autour de tables de réunion. Si on a décidé aujourd'hui de marquer le coup, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est la convergence à la fois, vous l'avez dit très bien, d'une réforme des aides à l'emploi qui pèse quand même pour près de 1,3 milliard d'euros, et à la fois des économies en Wallonie qui sont annoncées à hauteur de 2 milliards d'euros. Et donc, si on fait la somme de cela, eh bien, c'est autant de moyens qui sont généralement alloués à nos différents secteurs, pour lesquels, dans les concertations que nous avons avec les gouvernements aujourd'hui, on a des inquiétudes parce qu'on a des manques de garanties certaines qu'il n'y aura pas de casse sociale et qu'il n'y aura pas d'impact pour les populations, les bénéficiaires de nos différentes actions.
Vous parlez aussi d'une période charnière entre juin et octobre. Disons, quelles sont les décisions qui vous préoccupent le plus dans les semaines à venir ?
Oui, donc on entre dans une pièce en trois actes. Il y a celle du 11 de juin qui vient de se passer, qui était un gouvernement conjoint de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devait définitivement fixer des orientations politiques sur l'avenir de ces aides à l'emploi et de la manière dont elles allaient demain, ces aides à l'emploi, être affectées aux différents secteurs, puisque ça va quitter finalement les moyens alloués aux politiques d'emploi pour aller renforcer des politiques fonctionnelles, des politiques sectorielles. Ça, c'était la première enjeu. Le deuxième acte, ce sera cet été, puisque à la fois on a ces moyens qui vont quitter le ministre de l'Emploi, mais pour la mi de cet été, mi-juillet, ils doivent, les ministres fonctionnels, nous informer sur la manière dont ils veulent réceptionner ces différents moyens et ce qu'ils veulent en faire dans le futur. Et le troisième acte, le troisième moment de cette pièce qui se joue, c'est à l'automne, c'est dans le cadre des conclaves budgétaires, et comme partout, le nerf de la guerre, on le sait, ce sont les moyens. Et donc, derrière ces moyens-là, en fait, la particularité du secteur à profit social, c'est essentiellement des moyens qui vont à de l'emploi pour être aux côtés de publics parfois très fragilisés, mais aussi le secteur de l'éducation, la culture, le secteur du handicap, des maisons de repos, etc. Donc c'est très, très varié.
Alors, vous évoquez aussi une hausse constante des besoins sociaux. Quel constat vous faites, Frédéric Possemier, aujourd'hui, sur le terrain, concrètement ?
Alors, pour le moment, sur le terrain, ce qu'on voit, fatalement, et les chiffres le disent chaque semaine, c'est que nous avons une augmentation significative des personnes de plus de 80 ans. Or, aujourd'hui, si on regarde les populations de cet âge-là au regard des différents services que nous sommes en capacité d'offrir, il y a un gap, il y a un différentiel relativement important, et nous craignons que toutes les personnes âgées ne puissent pas être accompagnées comme il se doit. On voit aussi qu'aujourd'hui, le nombre de jeunes qui vivent dans l'anxiété, sont accompagnés par des services de santé mentale, ne cesse d'augmenter, et nous n'arrivons pas, nos services n'arrivent pas à rencontrer l'ensemble des besoins. Aujourd'hui, dans le secteur de l'aide à la jeunesse, on a 4000 enfants et adolescents qui attendent une prise en charge. Aujourd'hui, on a dans le secteur des personnes en situation de handicap, 2000 personnes en Wallonie qui attendent toujours d'être prises également en charge par un accompagnement adapté. Pareil, au niveau des crèches, il y a des besoins. Donc, en fait, les besoins ils sont en permanence présents et ils ne vont pas aller en diminuant puisque notre démographie augmente, les besoins augmentent et malheureusement les inégalités sociales aussi. Or nous, on est là pour, dans cette fonction de cohésion sociale, de garantir une place pour chacun et chacune de notre société.
Alors vous alertez aussi sur ce que vous appelez un triple risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, disons brièvement, qu'est-ce que cela signifie pour une association ou, par exemple, un service de proximité ?
Mais oui, mais donc... À la fois, on a le risque de voir clairement, dans le cadre des économies, les frais de fonctionnement, les moyens alloués pour soutenir nos frais de fonctionnement diminuer. Deux, c'est un premier risque. Le deuxième, c'est que le ministre de l'Emploi pourrait en même temps diminuer l'enveloppe globale des aides à l'emploi, lui-même contribuant du coup à ce qu'ils appellent l'effort de guerre. Mais en même temps, si dans une association, on vous diminue vos frais de fonctionnement et vos moyens et vos aides à l'emploi, inévitablement, à un moment donné, on va se retrouver en tension, d'autant plus que le troisième risque, c'est quoi ? C'est que les gouvernements n'excluent pas l'idée de considérer qu'il pourrait y avoir des secteurs prioritaires, entendez, qui pourraient être immunisés, et d'autres, du coup, comme les enveloppes sont fermées, voire diminuées, devraient faire de très gros efforts, de très grosses économies. Et ça nous interpelle, parce qu'en fait, tous les services que nous rendons à la population répondent d'une même chaîne et d'une même dynamique. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'offrir une place pour chacun dans la société. C'est des enjeux de dignité, c'est des enjeux d'émancipation et d'éducation, mais c'est aussi des enjeux clairement où on offre des services, où on permet de prendre soin de la société. Et on a du mal à se dire que le gouvernement peut considérer que dans cette approche-là, il y aurait des acteurs et des secteurs qui seraient prioritaires et non prioritaires.
Et justement, quels seraient les impacts les plus, visibles pour les citoyens si les moyens du secteur venaient finalement à diminuer drastiquement ?
Ils sont déjà visibles aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a déjà des économies, alors à plus petite échelle, qui se font. Mais dans le secteur, par exemple, de services de santé mentale, on a des directeurs qui nous disent aujourd'hui, on ne sait même plus remplacer des ampoules, on ne sait même plus réparer notre porte d'entrée, on doit faire rentrer nos bénéficiaires par une porte de garage. On a des opérateurs dans les maisons de repos, dans des hôpitaux, mais dans des institutions de handicap qui recalibrent leurs projets d'infrastructure, de rénovation qui reportent, mais et donc du coup, tous les bénéficiaires n'ont pas le plaisir d'être dans des cadres qui sont rénovés. On voit aussi clairement qu'il y a des emplois à durée déterminée qui aujourd'hui ne sont plus renouvelés. Ça a des impacts inévitablement sur l'offre qui diminue, des heures d'ouverture, des non-prises en charge, des files d'attente qui sont de plus en plus importantes. Ça peut avoir aussi un impact malheureusement sur la qualité, parce que mine de rien, on essaye, quand on a moins de personnel, d'essayer de malgré tout combler les absences, mais mine de rien, la qualité malgré tout peut avoir un impact pour les bénéficiaires.
Frédéric Possemier, vous insistez aussi sur le fait que les APE ne sont pas de simples lignes budgétaires. Pourquoi c'est important de le rappeler tout de même ?
D'abord et avant tout, parce que derrière ces lignes budgétaires, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent tous les matins pour aller rendre des services essentiels à la population. On parle de puéricultrices, on parle d'assistants sociaux, on parle de psychologues, on parle d'éducateurs, d'animateurs culturels, d'aides ménagères, d'aides soignantes, de gardes malades. Et la liste est extrêmement longue. D'abord, c'est des hommes et des femmes qui sont derrière. Ça touche 74 000 personnes. C'est une fois et demie le stade Roi-Baudouin qui serait rempli. Ça génère beaucoup d'insécurité dans ces familles-là aujourd'hui. Et donc, derrière aussi toutes ces familles et tous ces services à nos bénéficiaires, c'est aussi envoyer un signal d'un certain type de projet de société, soit qu'on veut encore défendre, soit qu'on n'a plus envie de défendre. Et nous, ce que l'on dit par rapport à ça, c'est que si à un moment donné ça devait se concrétiser, on estime que ce n'est pas qu'un débat budgétaire, c'est un débat de société. Et ça, alors, il faut ramener dans un espace plus démocratique ce type de décision. Et pour nous, ça doit se décider au niveau du Parlement et pas au niveau du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler que le secteur à profit social, c'est 230 000 travailleurs, c'est 12 000 employeurs. C'est en Wallonie aujourd'hui le premier secteur d'activité en termes d'emploi devant l'industrie, devant le secteur de l'énergie, devant la construction. C'est un secteur où il y a énormément de postes vacants. Et donc, est-ce qu'un gouvernement, est-ce que des gouvernements peuvent faire le luxe d'aller sabrer dans ce secteur qui, par ailleurs, est un véritable acteur partenaire du monde économique, de l'économie conventionnelle. Imaginez plus de crèches, imaginez que les personnes porteuses de handicap n'aient plus de structures qui les accompagnent. Voilà, on est bien content, toute la société est bien content d'avoir ces services-là. Je voudrais imaginer que le gouvernement et que chacun s'imagine une société dans laquelle tous ces services n'existeraient pas. Je pense que ce serait particulièrement dramatique en termes de cohésion et de solidarité.
On va parler des contacts avec les politiques. Vous avez eu une rencontre avec les ministres le 29 mai dernier, je crois. Est-ce que vous avez obtenu des réponses ou des débuts de garantie ou des engagements concrets, ou c'est toujours la politique de la chaise vide ?
Alors, c'est pas la politique de la chaise vide. Il y a une véritable écoute de la part des deux ministres présidents par rapport à nos réalités. Comme nous-mêmes, on doit écouter aussi le cadre budgétaire dans lequel ils sont et les responsabilités qu'ils veulent prendre par rapport aux générations futures. Mais il faut pouvoir réconcilier le court terme, le moyen et le long terme et des approches macro-budgétaires avec les réalités de terrain et les bénéficiaires pour lesquels tous les matins nous levons. Et donc, par rapport à ça, il y a une compréhension mutuelle très claire. Ce que nous avons, ce qu'on a mis beaucoup l'accent, c'est l'importance de la concertation sociale. On a regretté qu'avec le ministre de l'Emploi, sur les 3 à 4 derniers mois, il y a eu maximum 2 rencontres de travail un peu politique. Alors oui, il y a eu des réunions techniques l'année dernière, mais les réunions politiques, elles ont commencé maintenant, on peut le regretter. Et donc nous invitons vraiment l'ensemble des ministres fonctionnels, et c'est un engagement qu'ils ont pris, à ce que dès la rentrée en septembre, il y ait une concertation beaucoup plus structurée, beaucoup plus soutenue, avec des propositions sur la table de manière telle à ce qu'on ne parle pas de page blanche, pour essayer de réconcilier cette ambition politique et les réalités de terrain pour à la fois épargner les bénéficiaires et nos travailleurs.
Voilà, vous parlez de concertation, de dialogue avec les politiques. Est-ce que, disons concrètement, les principales demandes, revendications formulées par l'ULIPSO au nom des employeurs du secteur à profit social?
Ben oui, ben donc nous, on a 4 grandes attentes. Un, c'est la sécurité budgétaire, ce ne sera pas une surprise, garantir l'étanchéité des enveloppes pour chacune de ces politiques, de chacun des secteurs que nous représentons. Deux, c'est une sécurité juridique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens de Wallonie qui vont aller transférer vers des politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De nouveau, on va reparler de l'enseignement, de l'aide à la jeunesse, de la petite enfance, de la culture, de l'éducation permanente. Donc voilà, ce sont des très gros secteurs qui bénéficient beaucoup d'aide à l'emploi. Il y a un enjeu majeur de ne pas rater ce transfert et donc d'avoir des bonnes balises juridiques et administratives qui verront à garantir les moyens et une utilisation efficiente avec de la simplification administrative pour tout. Ça, c'est la deuxième attente. La troisième, c'est la garantie d'existence. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, il faut savoir que le secteur à profit social, tout le monde ne bénéficie pas d'agréments et de subventionnements. Il y a vraiment des entrepreneurs sociaux qui développent des activités assimilables à celles qui sont agréées et subventionnées. On en répertorie chez nous, dans nos fédérations, 560 qui fonctionnent avec des bouts de chandelle et un peu avec ces aides à l'emploi. Et nous, notre enjeu, c'est de trouver une solution pour ces secteurs-là, pour qu'ils puissent maintenir durablement les moyens qu'ils ont aujourd'hui et qu'on puisse leur trouver une sécurité juridique en adaptant les réglementations pour les faire exister et pour les reconnaître et pour que surtout ils ne soient pas la variable d'ajustement demain. Et la quatrième attente, c'est celle que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est celle d'une concertation sociale renforcée.
Une dernière question avant de nous quitter. Si vous avez un double message, rappeler en direction des politiques ce que vous attendez et du côté du secteur à profit social pour les rassurer un peu.
Ben moi, le premier message que j'ai envie de dire, c'est aller relire l'article dans Le Soir d'Étienne de Calataille et de Bruno Coleman, qui ce week-end disait qu'effectivement, il faut assainir les finances publiques, mais pas le faire à la hussarde et n'importe comment. Et s'il y a 2 secteurs qu'il faut épargner, ce sont immunisés, ce sont les secteurs de la solidarité et de la cohésion sociale. Et ça, c'est nous, c'est le secteur à profit social, c'est le secteur non marchand. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de dire. Et que le deuxième, c'est que, mais je pense qu'ils en sont conscients, mais faire des économies dans nos secteurs, ça ne diminuera pas les besoins de la population. Et donc, ce qu'on générera, c'est le transfert d'une dette sociale, voire d'une dette économique à moyen et long terme. Et donc, voilà, ça, c'est le message que nous voulons. Donc, Réfléchissez bien, mesurez bien les impacts et prenez les décisions en meilleure connaissance de cause. Et nous sommes là, partenaires, pour trouver les solutions qui, demain, permettront à chacune et chacun d'assurer, de continuer à donner du sens aussi au métier que nous exerçons pour le bien de la population.
Voilà, on l'a compris, un dossier crucial pour l'avenir du secteur à profit social, mais aussi pour les milliers de travailleurs et de travailleuses, et de citoyens et de citoyennes qui bénéficient chaque jour de ces services ô combien essentiels. Frédéric Possemier, secrétaire général de l'IPSO, merci d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.